Ah, il y avait un chant normalement, mais on va le garder pour après la prédication. Bon, nous continuons notre série, et notre série nous conduit aujourd'hui à lire Romains 3. Donc pour ceux qui veulent suivre dans leur Bible, je vous invite à ouvrir vos Bibles à Romains chapitre 3. Dans le chapitre 2 qu'on avait vu, l'apôtre Paul pointait du doigt l'orgueil avec lequel certains juifs de son temps utilisaient leur connaissance de la loi pour s'élever en l'imposant aux autres. Ils s'enorgueillissaient au lieu de se l'appliquer à eux-mêmes. Et on retrouvait l'enseignement du Christ, hein, que vous connaissez, le sermon sur la montagne. Comment veux-tu ôter le brin de paille qui est dans l'œil de ton voisin alors que toi-même tu as une poutre dans le tien? Le passage que nous allons lire maintenant s'inscrit dans la suite directe. Puisqu'au final, il concluait le chapitre 2, je ne sais pas si vous vous souvenez, en disant, ben, tu vois, celui qui obéit à la loi alors qu'il n'est même pas juif, il n'a pas reçu la circoncision, c'est lui qui va te juger, toi. Qui a reçu la circoncision mais qui n'obéit pas à la loi. Alors Paul se met dans la place d'un juif. Alors ça sert à quoi d'être juif? Est-ce que ça a le moindre avantage? Si la loi que Dieu me donne m'accuse, alors qu'est-ce que j'y gagne? Et Paul va rentrer dans un dialogue qu'il va inventer avec ce juif pour conduire au chemin de vie que Dieu a instauré dans ce monde à travers Christ. Alors nous lisons ensemble Romains 3. Y a-t-il alors un avantage à être juif? La circoncision est-elle utile? L'avantage est grand à tous égards. Et d'abord, c'est aux juifs que Dieu a confié ses promesses. Il est vrai que certains d'entre eux ont été infidèles. Mais quoi? Dieu renoncerait-il à être fidèle parce que eux ne l'ont pas été? Non, certainement pas. Il doit être clair que Dieu est vrai et que tous les êtres humains sont menteurs, comme le déclare l'Écriture, afin que tu sois révélé juste, éternel, dans ce que tu dis et que tu sois vainqueur si l'on te met en jugement. Mais alors, si l'injustice que nous commettons fait ressortir la justice de Dieu, qu'allons-nous dire? Dieu est-il injuste parce qu'il déchaîne sa colère? Alors je parle à la manière des êtres humains. Mais non, certainement pas. Car s'il l'était, comment pourrait-il juger le monde? Mais si mon mensonge met d'autant plus en avant la vérité de Dieu, et donc mon mensonge sert à sa gloire, pourquoi devrais-je être jugé comme pécheur? Et alors, ben, pourquoi ne pas aller jusqu'à dire faisons le mal pour qu'il en résulte du bien? Certaines personnes, en effet, pour nous calomnier, soutiennent que ce sont nos paroles, mais ces gens seront jugés et ce sera justice. Mais alors quoi, finalement? Sommes-nous désavantagés, les Juifs? Pas totalement. Nous avons déjà démontré que tous, Juifs et ceux qui ne le sont pas, se trouvent également sous la domination du péché. L'Écriture le déclare. Il n'y a pas d'être humain juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprennent, personne qui cherche Dieu. Tous ont quitté le bon chemin. Ensemble, ils se sont égarés. Il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gorge est comme un tombeau ouvert, leur langue sert à tromper, c'est du venin de serpent qui sort de leurs lèvres, leur bouche est pleine de malédictions amères. Ils courent à toutes jambes pour assassiner, ils laissent la destruction et le malheur partout où ils passent. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. Et ils vivent sans reconnaître qui est Dieu. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont soumis à la loi, afin que nul ne puisse ouvrir la bouche pour se défendre et que le monde entier subisse son procès devant Dieu. Or, personne ne sera connu juste aux yeux de Dieu pour avoir obéi à la loi. La loi permet seulement de prendre connaissance du péché. Mais maintenant, Dieu nous a montré comment il nous rend justes devant lui, et cela sans l'intervention de la loi. Les livres des prophètes et de la loi l'attestent, Dieu déclare les êtres humains justes par la foi et la fidélité de Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui mettent leur foi en lui. Car il n'y a pas de différence entre eux, tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, par sa grâce, les rend justes gratuitement, par Jésus-Christ, qu'il les délivre de leur esclavage. Dieu a offert Jésus-Christ comme un sacrifice pour le pardon des péchés. Par sa fidélité, qui est allée jusqu'à verser son sang, le Christ a manifesté que Dieu est juste pour toujours. Il l'était autrefois quand il a patienté et laissé impunis les péchés des humains, et il l'est dans le temps présent, car il veut à la fois être juste et rendre juste tous ceux qui croient grâce à la fidélité de Jésus-Christ. Y a-t-il encore une raison de s'enorgueillir ? Non, aucune. Au nom de quoi disons-nous ceci ? D'une loi à laquelle il faut obéir ? Non, d'une loi qui invite à la foi. Nous estimons en effet qu'un être humain est reconnu juste par la foi et non parce qu'il obéirait à la loi. Ou sinon, Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs ? N'est-il pas aussi le Dieu des autres peuples ? Et bien sûr, il est le Dieu des autres peuples, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et Dieu rendra juste les Juifs en raison de leur foi, et ceux qui ne sont pas juifs également par la foi. Cela signifie-t-il qu'en raison de la foi, nous enlevons toute valeur à la loi ? Ah non, bien au contraire, nous lui donnons toute sa valeur. Chapitre 3. Alors essayons de comprendre l'argumentation de Paul. J'ai conscience que ce texte est un peu long, on n'a pas l'habitude de lire un chapitre entier, mais ça fait du bien aussi des fois. Est-ce une chance d'être né dans le peuple de Dieu ? Pour Paul, la réponse est oui, car ce peuple a reçu des promesses de la part du Créateur. Et quand même une partie de ce peuple s'est trouvée infidèle à Dieu, cela n'a pas conduit Dieu à devenir infidèle en son tour. « Ah, ben puisque tu me lâches, je te lâche. » Non. Donc Paul explique, l'infidélité trouvée au sein d'Israël n'a pas détruit l'alliance. La fidélité de Dieu à son alliance demeure malgré l'infidélité de Dieu à son peuple. Donc, naître dans le peuple de Dieu reste une bénédiction, puisque on est dans les promesses. Faisons un parallèle. Aujourd'hui, comment Dieu jugerait-il un enfant, bon, devenu adulte, hein, mais qui est né dans l'Église, élevé dans la foi, avec bon, toutes les imperfections de la famille, de la communauté, mais il fait son chemin et il s'éloigne complètement de Dieu. Est-ce que Dieu va le juger comme un incroyant qui n'a jamais rien connu du Seigneur ? Ou est-ce que Dieu va le juger comme quelqu'un qui a quitté Christ, qui est devenu infidèle ? Pourtant, un Christ qu'on lui aurait présenté, mais qu'il n'aurait jamais accueilli. Eh bien, c'est la deuxième réponse. Jésus enseignait ainsi, le serviteur qui sait ce que veut son maître, mais qui n'a rien préparé ou qui n'a pas agi selon la volonté de son maître, recevra de nombreux coups. En revanche, le serviteur qui ne sait pas ce que veut son maître et a agi de telle façon qu'il mérite d'être puni, recevra peu de coups. À qui l'on a donné beaucoup, on demandera beaucoup. À qui l'on a confié beaucoup, on demandera encore plus. On pourrait répondre alors, mais quel est l'avantage alors d'élever son enfant dans la foi quelque part ? Cette connaissance de Dieu que nous pouvons nous efforcer de lui donner risque de se retourner contre lui. C'est logique. Mais grandir dans l'Alliance est quand même l'endroit le plus sûr où vivre et tisser une véritable relation avec Dieu. Alors il n'y a pas de garantie. On ne peut pas contraindre, on ne peut pas manipuler quelqu'un pour qu'il ait une vraie relation avec Jésus. L'Inquisition a essayé, ça ne marche pas. Tout abus d'autorité dans ce domaine transmet la crainte des hommes et non pas la crainte de Dieu. Et la crainte des hommes est une formidable usine à hypocrisie. Nos enfants, nés dans le peuple de Dieu, tout comme les Juifs dont Paul parle, naissent dans une relation avec le Créateur qui les précède. Ils naissent dans les promesses, dans une découverte d'un Dieu qui désire être leur Père spirituel, leur Sauveur. L'avantage est réel. Pour peu que nous, parents, nous le transmettons et nous le vivons pleinement. Pour reprendre l'image de l'arche et de Noé, un enfant de chrétien naît dans l'arche. Il est donc, a priori, dans le lieu de salut. Et il peut choisir d'en sortir parce que la porte n'est pas fermée. Et malgré ce risque, nous serons d'accord qu'il est bien préférable de naître dans l'arche plutôt que de devoir en trouver le chemin. Donc, premier argument, est-ce que ça vaut le coup de naître dans l'Alliance ? Ben oui. Paul souligne d'ailleurs au passage que l'infidélité du peuple, alors que Dieu reste fidèle, ben cette infidélité met en lumière presque, par contraste, la fidélité de Dieu. Alors il y a un petit malin, enfin, Paul imagine un petit malin qui dit « Ah ben, mais pourquoi, de quoi Dieu se plaint ? Nous, peuple de Dieu, notre rôle, c'est de glorifier Dieu, d'accord ? Eh bien, t'as vu, quand on est hyper infidèle et que lui, il est vachement fidèle, ça le glorifie à fond. Alors, de quoi Dieu se plaint-il ? De quoi Dieu se plaint-il ? Il ne devrait même pas nous en vouloir. On sert sa cause. Dieu ne devrait-il pas être content que sa gloire est mise en évidence ? Ça serait vrai si Dieu était orgueilleux et vaniteux. Hein ? Mais ce n'est pas le cas. Si Dieu devait absoudre tout le mal qui augmente, par contraste, sa bonté et sa justice, il ne pourrait plus rien juger sur la terre. Et alors, on serait dans le mal éternellement. Certains adversaires du christianisme du temps de Paul faisaient croire que les disciples du Christ pratiquaient le péché pour exalter la bonté et montrer à quel point Dieu était cool puisqu'il pardonne. C'est faux. C'est archi faux. Même si nous avons du mal à le comprendre, il est vrai que les pécheurs qui seront jugés par Christ seront une sorte de preuve de la justice de Dieu. Oui. Mais Dieu préfère de loin un pécheur qui se repent et qui devient un signe non pas de sa justice, mais de sa grâce, de son amour. Puisse Jésus-Christ être le seul humain à subir la colère de Dieu et puisse tous les autres êtres humains recevoir le pardon et l'amour de Dieu. Car, nous l'avons vu dans la liturgie, Dieu ne désire pas la mort du méchant, mais qu'il se repente et qu'il vive éternellement. Bon, alors l'argumentation continue. Ok, admettons que ça vaille le coup de naître dans le peuple. Mais alors, cette loi, si j'essaie d'obéir à la loi, je vais dans un mur, on est clair. Donc la loi n'est pas bonne. Elle ne sert à rien. Puisque, même en mettant toutes mes forces pour lui obéir, ça ne marche pas. Paul dit, ben oui, c'est vrai, la loi ne marche pas pour sauver. Oui, c'est vrai. Personne ne peut arriver à l'exigence de Dieu en termes de justice et de loi. Sauf Jésus. Mais la loi est bonne dans le sens où elle révèle vraiment le péché dans le cœur du croyant. Imaginez que le cœur du croyant, c'est une terre que l'on ensemence de graines. Alors les graines, ça représente la loi de Dieu, et puis la terre, ça représente votre cœur. Mais voilà qu'une fois plantées, ces graines, c'est pas qu'il n'y a rien qui pousse, comme si votre cœur était stérile, non. C'est que vous plantez des graines de blé ou de fruits, d'un verger, et qu'est-ce qui pousse? Ce sont des épines et des ronces. Alors, soit vous êtes trompé de graines, Soit votre terre a un gros problème, puisque si je plante du blé qui pousse des ronces, c'est qu'en fait elle est infectée quelque part. Eh bien, c'est ce qui se passe. La loi juste plantée dans le cœur de l'homme produit du péché. La loi juste produit du péché. Cela doit nous faire comprendre que le problème ne vient pas de l'outil, du chemin, mais du cœur. On peut dire que la loi devrait pousser le croyant à désespérer de lui-même. La loi devrait montrer que lui n'y arrivera jamais. Mais d'une autre façon, le croyant qui comprend que le problème ne vient pas de la loi, mais de son cœur, qui reste dur et orgueilleux et idolâtre, devient avide d'une autre solution, devient avide d'être délivré de lui-même. Mais qui le sauvera de lui-même ? C'est alors que Paul parle du salut en Christ. Dieu déclare les êtres humains justes par la foi et non pas par la loi. Par la foi, parce que Christ a été fidèle là où nous n'arriverons jamais à être fidèles. Et donc toutes celles et ceux qui mettent leur foi en Christ seront sauvés. Lui a pu accomplir toutes les exigences de la loi de Moïse, prouvant qu'elle est réellement bonne d'ailleurs. Lui, l'humain sans péché, peut trouver la vie éternelle par l'obéissance. Mais personne d'autre que lui peut le faire. Et Paul écrit que celui qui place sa confiance, non pas dans lui-même, mais dans ce Jésus, celui qui a vécu là, né autour de l'an zéro, mort vers 33, crucifié, mais ressuscité, celui-là sera justifié par Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il sera justifié par Dieu ? Ça veut dire que c'est comme s'il avait obéi à toute la loi depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Quand vous êtes justifié par Dieu, c'est comme si vous aviez obéi à la loi depuis votre naissance jusqu'à votre mort. Vous êtes déclaré juste. Alors comprenons bien les choses. Dieu n'est pas en train de prendre votre gros casier judiciaire de péché et de le mettre au feu en disant « on oublie en fait ». Non. Votre casier est rendu vierge parce que la peine encourue a été accomplie par Jésus et donc il y a eu justice. Je ne suis pas déclaré non coupable pour mes péchés. Je ne suis pas innocenté, je suis pardonné parce que Jésus a payé. Ainsi, Dieu révèle parfaitement qu'il est juste, tout en révélant à quel point il nous aime. Et Dieu veut rendre juste tout son peuple, toutes celles et ceux qui croiront, intégreront le peuple de Dieu qui est aujourd'hui l'Église. La loi de Moïse, c'était l'exclusivité des Juifs qui devait leur montrer leur péché. Et leur besoin de Christ. Et la foi, c'est le moyen de salut de Dieu. Ainsi, Dieu appelle au salut les Juifs par la loi, qui les pousse à la foi, et les non-Juifs par la foi en Jésus-Christ. Alors, c'est une bonne nouvelle. Le salut est une œuvre impossible à réaliser pour nous. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Mais Christ l'a fait et nous l'offre gratuitement, juif, non-juif, parce qu'il est bon, parce qu'il est miséricordieux. Il suffit d'accepter le salut offert et la vie pleinement. Au final, être sauvé devint tellement simple. Être sauvé devient universel, transculturel. Le salut, c'est très simple. Simple. Mais simple ne veut pas dire facile, parce que le salut demeure difficile. Et par difficile, je ne veux pas dire compliqué, je veux dire difficile, l'inverse de facile. Pourquoi le salut est difficile ? Parce que nous devons mûrir à notre orgueil. La puissance, la liberté, la beauté de cet évangile en Christ contient aussi ce qui le rend difficile pour nous. L'évangile nous interdit tout orgueil, toute prétention. Être chrétienne ou chrétien est un chemin, soyons francs, d'humiliation. Et je ne dis pas d'humiliation au sens de brimade, Je dis l'humiliation au sens de la perte de notre ego. Il n'y a pas de mérite dedans. Il y a de la joie, il y a de la liberté, mais pas la moindre chose qui puisse nourrir notre ego. Pourtant, nous y parvenons. Nous parvenons à nous enorgueillir d'être sauvés par la grâce, d'avoir compris des choses que d'autres n'ont pas compris, d'avoir accompli des choses par la puissance de Dieu que d'autres n'ont pas accompli, d'être un chrétien plus élevé que les autres. J'avais un ami qui s'appelle, vous le connaissez, Hugo Wessel. Un jour, il s'approche d'un autre jeune étudiant et il dit, tu vois, moi j'ai 70 ans et je suis chrétien depuis X années, et parce que je marche avec le Seigneur depuis plus longtemps que toi, je suis plus proche de Dieu que toi. Et il prend une feuille de papier comme ça, il la met par terre, et puis il marche dessus, il dit, voilà, t'as vu, je suis plus proche du ciel que toi. Et c'est ça. Tu peux te sanctifier pendant 20, 30, 40 ans, tu t'approcheras de Dieu, de ça de plus que les autres. Tellement lui est loin, loin dans le sens saint et immense. Il n'y a pas d'orgueil dans le christianisme. C'est une diète, une ascèse à ego au sens orgueil. Il nous faut sans cesse lutter sur cette façon qu'on a de chercher à nourrir à nouveau notre ego avec quelque chose qui normalement est anti-ego. Réfléchissez à ça. Nous sommes capables de nous sentir. Toi, moi, ça m'est arrivé, c'est vraiment tragique et comique à la fois. Quand tu te dis, ah ben lui, il n'est pas humble. Hein. Sous-entendu, moi, à sa place, je serais humble. Donc, je suis capable de m'enorgueillir de mon humilité. C'est génial quand même. L'humilité, c'est l'absence d'orgueil. Mais je suis capable de m'enorgueillir avec ça. Le salut par grâce, c'est Christ qui nous rencontre et qui nous délivre de notre propre péché. Je suis capable de m'enorgueillir de ça. Ben oui. Ah, on est doué quand même. Simple, mais difficile. Il nous faut lutter, regarder sans cesse à Christ, garder les yeux ouverts, les rouvrir si besoin. Car prêcher l'évangile consiste à révéler un Dieu qui condamne, oui, mes actions, mes comportements, mes habitudes, mes choix, mes pensées, mes désirs. Et prêcher l'évangile consiste à présenter un Dieu qui m'offre un salut gratuit, éternel, sûr, par la simple foi en Jésus. Puissions-nous accepter cette épée à double tranchant qui sauve ma vie, mon âme, mais qui n'épargne pas mon ego. Alors, je deviendrai humble, doux, bon, patient, miséricordieux, maître de moi-même, etc., etc. Et souvenez-vous, un jour, tel qu'il est lui, nous le serons également. Mais la bonne nouvelle ne s'arrête pas là. Il y a le pardon de Dieu. Il y a autre chose que Jésus nous accorde dans son œuvre. Paul écrit, on l'a lu, « Mais Dieu, par sa grâce, les rend justes gratuitement par Jésus-Christ, qui les délivre de leur esclavage. » Qui les délivre de leur esclavage. Il y a une grâce qui nous rend justes, mais Paul parle également d'une délivrance. Cette nature impeccable, impeccable ça veut dire qui ne pêche pas, de Jésus, qui déteste le mal et qui aime le bien, qui se réjouit dans l'humilité et qui aime Dieu de tout son être, Jésus nous la donne. Il nous délivre réellement du péché. Aujourd'hui, j'ai reçu, par l'Esprit Saint, une nature semblable à celle de Christ. Étrangement, elle cohabite avec mon ancienne nature. Comme si j'avais un moteur hybride. Mais en fait, dès maintenant, je peux vivre pleinement pour le royaume. Même si j'ai gardé mon goût pour le péché, même si j'ai mon ignorance du règne de Jésus-Christ, même si mon horizon est limité dans ce que je peux croire Dieu capable de faire dans ma vie. Tout ça, ça bride la vie nouvelle en moi. Mais Christ l'affirme, Paul aussi, je suis libre face au péché, juridiquement, techniquement, même si, je ne vais pas dire que je n'y crois pas, mais je ne l'embrasse pas, je ne le vis pas. Et ça, ça change tout aussi. Je suis appelé à apprendre à ne plus me servir de mon ancien moteur, mais à vivre pleinement sur mon nouveau moteur. À faire grandir en moi le goût du royaume, le goût des choses petites, le goût du don de soi, le goût de l'humilité, le goût dans cette joie exclusivement partagée et pas dans cette joie égoïste. Il y a plein de goûts du royaume, de trouver ma joie en Christ, qui peuvent maintenant grandir en moi parce que j'ai reçu non pas un cœur de pierre mais un cœur de chair, et que maintenant quand la loi y vient, elle porte du fruit. La loi de Dieu me révèle mon péché, mais plus que mes mauvais choix, elle a révélé mon orientation opposée au royaume de Dieu. Christ vient me sauver d'un double problème, ma nature qui ne désire pas Dieu et ma dette de par mes actes, mes paroles, mes pensées. Ma dette totale, passée, présente et future, est payée maintenant. Et ma nature a été transformée par ma communion avec Jésus-Christ. Et je reçois en moi une nature qui espère, qui croit, qui aime, qui prend patience, qui se réjouit de la vérité, de la paix, qui ne désire pas gagner ou tricher, mais qui aime offrir et partager. Alors, au boulot, parce que de toute façon vous allez gagner, parce que Christ a déjà tout accompli en vous. À lui soit notre gloire, et à nous soit toute sa joie. Amen.